Bonjour, chers frères. Je suis heureux de vous voir tous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer par la Bible. Nous allons aller directement à un passage de l'Écriture. Allons au chapitre 12 de la Genèse. Normalement, nous ne commençons pas de cette façon, mais nous allons raconter une histoire, regarder quelques histoires pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Genèse chapitre 12, et nous commencerons au verset 1. C'est l'appel d'Abraham. Il est dit, le Seigneur avait dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Voilà qui plante le décor. Voici ce qui se passe en premier. Maintenant, descendez au verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Lorsqu'il fut sur le point d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle à voir. C'est pourquoi, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront que c'est sa femme, et ils me tueront, mais ils te laisseront la vie sauve. Dis donc, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois heureux à cause de toi, et que mon âme vive à cause de toi. » C'était intéressant. Abraham s'est donc réuni avec Sarai pour raconter un petit bobard, pour mentir afin de se protéger. Il s'en serait sorti, mais elle ne s'en serait pas sortie. Et je ne sais pas s'il pensait à cela quand il a fait cela. A-t-il retenu la leçon? A-t-il recommencé? Passons au chapitre 20, chapitre 20, verset 1. Abraham partit de là pour le pays du Midi, s'arrêta entre Kadès et Shur, et séjourna à Guérar. Abraham dit de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Oh, donc tout de suite, il fait la même chose. Cette fois, il ne prend même pas la peine d'entrer dans l'histoire, et, je vais vous dire, je vais. Non, 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 non. Non. Elle est à bord. Donc oui, elle a compris. Alors il a tout de suite dit, c'est ma sœur. Et en conséquence, Abimelech, le roi de Guéra, a envoyé et a pris Sarah et a pris Sarah. Maintenant, ce que je n'ai pas dit dans le premier exemple, c'est qu'il était en Égypte quand il a fait cela, et cela a causé toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes. Finalement, le pharaon a dit, reprends ta femme. Je ne sais pas pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur. Sors d'ici. Et c'est ce qu'il fait ici. Et Abimélec la prend, ce qui est prévisible. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Égypte. Il est évident que cela posait un problème à l'époque. Il y avait un problème avec les femmes qui étaient enlevées et les hommes qui étaient tués. Je ne pense donc pas que tout cela soit dans sa tête. Il sait que c'est ce qui se passe. C'est donc ainsi que je vais m'y prendre. Mais Dieu, au verset 3, est venu en songe à Abimélec pendant la nuit et lui a dit, Tu es un homme mort, car la femme que tu as prise, c'est la femme d'un homme. En gros, Dieu intervient en sa faveur. Mais il est également intervenu en sa faveur dans le premier exemple. Il a tourmenté la maison de Pharaon, et maintenant il menace Abimelech en disant, Regarde, c'est la femme d'un homme, tu dois la laisser tranquille. Tu dois la laisser tranquille. Abimelech finit par confronter Abraham et lui dit, Je ne sais pas pourquoi tu as fait cela. Il n'y a pas de raison. Tu ne devrais pas faire ce genre de choses à quelqu'un. Il lui permet donc de rester là. Il lui a donné des provisions, Puis Abraham est parti. Abraham a donc commis l'erreur, puis il l'a répété. Il n'a pas appris, et il n'a pas appris même après que Dieu soit intervenu pour lui après qu'il ait dit un mensonge la première fois. Nous pouvons tous subir des pressions, nous le savons. Il a subi des pressions, il a menti. Il voulait être sauvé. Dieu est intervenu en sa faveur. Il n'y avait donc aucune raison de recommencer, mais il l'a fait. Passons maintenant au chapitre 26. Nous nous intéressons maintenant à Isaac, son fils. Au verset 1, il eut dans le pays une famine semblable à la première famine qui avait sévi du temps d'Abraham. Isaac alla jusqu'à Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Descendez au verset 6, Isaac demeura à Guérar. L'homme du lieu lui demanda des nouvelles de sa femme, et il répondit, « C'est ma sœur. » Encore une fois, maintenant, vous devez vous demander s'il savait que cela avait été dit par Abraham la première fois, ou est-ce juste une coïncidence qu'il ait donné exactement la même excuse? Je n'en sais rien. Ou un raisonnement? Alors son fils a fait la même chose. Ce que nous voyons ici, c'est un exemple de non-apprentissage des erreurs. Disons qu'Abraham a fait deux fois la même erreur et qu'Isaac est arrivé juste derrière et a fait exactement la même erreur, même si son père l'avait faite. Alors bien sûr, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de l'apprentissage à partir des erreurs. Comment pouvons-nous apprendre de nos erreurs, plus précisément? Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas lu la suite, mais si je l'avais fait, vous auriez vu qu'Abimelech, qui semble être le même homme qu'Abraham a trompé, ce même homme, semble avoir appris sa leçon parce qu'il n'est pas allé prendre Rebecca, il a juste regardé par la fenêtre et a fait ses recherches d'abord, et il les a vues, vous savez, s'ébattre et jouer ensemble et il a dit, « Tu sais, je ne pense pas que tu joues avec ta sœur comme cela. » Pas du tout. Et puis il s'est probablement rapproché. Il l'a appelé et il s'est dit, premièrement, cette situation lui semble familière, et deuxièmement, vous lui semblez familière. Votre père s'appelle-t-il Abraham? Mais c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment nous pouvons apprendre de nos erreurs parce que nous ne voulons pas les répéter. Pour la première étape, veuillez vous reporter au chapitre 28 des Proverbes. Pour la première étape, nous sommes dans Proverbe 28. Proverbe 28 et le verset 13. Le verset 13 de Proverbe 28 dit, « Celui qui couvre son péché ne prospère pas. » La première chose à faire est donc de reconnaître que nous avons commis une erreur. Cela semble très élémentaire. Cela va être très simple. Tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est très élémentaire. C'est basique et c'est simple à comprendre, mais c'est difficile à faire. Pourquoi est-ce difficile? Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles il est difficile de reconnaître ses erreurs. Il peut s'agir de fierté, de honte, d'embarras. Parfois, pour certaines personnes, c'est la douleur. Parce que cela fait mal à certaines personnes, cela fait vraiment mal de se rendre compte que l'on a commis une erreur qui peut causer du tort à d'autres personnes. Mais quelle que soit la raison, il faut la surmonter. Et rien de ce dont nous avons parlé aujourd'hui n'a d'importance si nous ne reconnaissons pas que nous avons commis une erreur. C'est presque comme nier ou éviter l'erreur, c'est presque comme si elle n'avait pas eu lieu. C'est plus confortable. Ce n'est pas arrivé. Je ne vais pas m'inquiéter d'eux. Je n'en parlerai pas. Mais le fait de nier une erreur ou de l'éviter peut en fait l'aggraver à l'infini. Passons donc au chapitre 16 des Deuxièmes Chroniques. Nous allons examiner quelques histoires dans la Bible pour nous aider à comprendre ces points. Deuxièmes Chroniques, chapitre 16. Cette histoire concerne en fait Il s'agit du récit du roi Asa. Nous savons que le roi Asa était un bon roi. Il était un roi juste, il s'est débarrassé des idoles, il a fait le ménage. Mais nous allons commencer par le premier verset. La 36e année du règne d'Asa, Béa, roi d'Israël, monta contre Juda et battit Rama, afin de ne laisser ni sortir ni entrer Asa, roi de Juda. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya dire à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait Tédamas, « Il y a une alliance entre moi et toi, ou du moins il y en a une maintenant, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va rompre ton alliance avec Baïa, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Et cela a fonctionné. Ben-Hadad a changé d'avis. Asa a pu aller dans certaines villes où Bansha construisait des villes, il a volé le bois et est allé ailleurs, et il a construit d'autres villes. Cependant, descendez au verset 7. En ce temps-là, Hanani, le voyant, vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Lubim ne forment-ils pas une armée nombreuse avec beaucoup de chars et de cavaliers? Mais parce que vous vous êtes appuyé sur le Seigneur, il les a livrés entre vos mains. Car les yeux du Seigneur parcourent toute la terre, pour se montrer forte en faveur de ceux dont le cœur est parfait à son égard. En entendant que tu as agi en insensé, tu auras désormais des guerres. Dieu l'a donc confronté à quelque chose qu'il a fait, à une erreur qu'il a commise. Et quelle a été sa réponse? A-t-il répondu, « Oui, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû faire cela. » Eh bien, sa réponse, au verset 10, Asa fut irrité contre le devin, et il le mit en prison, car il était furieux contre lui à cause de cette chose. Et Asa opprima en même temps une partie du peuple. Il a donc pris le prophète de Dieu et l'a mis en prison, puis il a commencé à opprimer les gens. Pendant 36 ans, tu as été un bon roi. Tout allait bien. Et puis quelqu'un est sorti, Dieu est sorti et a dit, « Regarde, tu as fait ceci, et ta réponse a été de te mettre en colère. » C'était une façon d'éviter d'admettre qu'il avait fait une erreur. Mais vous avez aggravé la situation en prenant le prophète de Dieu, qui est essentiellement un messager, et en le jetant en prison. Ce n'est pas du tout ce que vous voulez faire. Parce que la question serait de savoir s'il s'agit d'un messager de Dieu. Si Dieu était là et que vous aviez le pouvoir, le jetteriez-vous en prison? Je m'écarte du sujet. Et la situation s'est encore aggravée. Vous allez au verset 12. Asa, dans la 39e année de son règne, fut atteint d'une maladie au pied, qui devint très grave. Dans sa maladie, il ne s'adressa pas à l'Éternel, mais au médecin. C'est comme s'il avait fait une erreur, et qu'il s'était mis en colère parce qu'il avait été confronté à cette erreur. Il a donc aggravé son cas en jetant le prophète de Dieu en prison, puis il a commencé à opprimer le peuple, ce qui s'est transformé en amertume et en colère. Il s'est mis en colère, et cela s'est transformé en amertume, et il ne s'est pas réconcilié avec Dieu. Faire ce genre de choses, ne pas reconnaître ses erreurs peut en fait nuire aux relations avec Dieu, avec d'autres personnes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Asa. Il ne voulait pas aller vers Dieu. C'était comme s'il était en colère contre Dieu. Il lui disait, « Attends un peu, c'est toi qui as fait cela. » Mais il était en colère contre Dieu. Et que s'est-il passé? Asa s'est couché avec ses pères. Il est mort. Il ne s'est jamais remis. C'est une chose à laquelle nous devons faire attention. Nous devons nous assurer que nous reconnaissons nos erreurs, car nous ne pouvons pas changer ce que nous ne reconnaissons pas. Je veux dire que c'est assez évide. C'est évident, mais ce n'est pas si simple. C'est difficile. Comme je l'ai dit, et nous avons parlé des différentes raisons pour lesquelles cela peut être difficile. Mais comme je l'ai dit, cela semble assez évident, mais c'est une chose difficile à faire. La douleur, l'embarras, la honte, tout cela peut nous empêcher de reconnaître nos erreurs et pourrait nous amener à détruire des relations, voire à ne pas offrir la possibilité d'une réconciliation, et ainsi de suite. C'est la première étape. La deuxième étape, si nous revenons au Proverbe 28, nous dit en fait dans les Proverbes 28. Proverbe 28 et verset 13. La deuxième partie de ce verset est la suivante, « Celui qui les confesse et les abandonne aura pitié. » J'ajouterai, et ce n'est que moi, que c'est le cas avec Dieu et avec les hommes. En confessant ses erreurs et en les abandonnant, on a plus de chances d'obtenir la miséricorde, on a plus de chances de se réconcilier avec les gens. Et Dieu est tout entier tourné vers la réconciliation. Il ne veut pas de division. Il ne veut pas que les gens se battent ou quoi que ce soit de ce genre. Mais nous devons changer de comportement, et pour cela, nous devons nous repentir. C'est ce que signifie la repentance. La première chose à faire est de dire « Je suis désolé » lorsque nous commettons une erreur et que nous blessons quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un est affecté par ce que nous avons fait. La première chose à faire est de dire « Je suis désolé ». Allez au chapitre 17 de Luc. Luc, chapitre 17, verset 3. Le troisième verset de Luc dit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère t'a offensé, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il t'a offensé sept fois le même jour, et que, sept fois le même jour, il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Ce qui est intéressant, c'est que nous savons que se repentir signifie changer. Mais dans cette situation, je ne sais pas si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Je change ». Je pense qu'ils disent « Je suis désolé ». À moins que l'un d'entre vous ne dise « Je change ». Et alors nous en parlerons parce que c'est gênant. Mais c'est la première chose que nous pouvons faire. « Je suis désolé », c'est deux mots. Ou vous pouvez dire trois mots, mais ces mots, ils atténuent tellement et ils adoucissent tellement. « Je suis désolé ». Les gens qui peuvent être extrêmement en colère et apparemment impitoyables, si vous dites « Je suis désolé » et que vous le pensez, et que vous le pensez vraiment, je veux dire que cela adoucit beaucoup de choses. Et nous devons aussi dire que nous sommes désolés, même à Dieu. Passez au 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Il répète en quelque sorte ce que disent les proverbes, mais le verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Une fois de plus, cela revient à dire que la première chose à faire est de le reconnaître, mais qu'ensuite, Dieu nous aidera à purifier cette erreur. Il nous aidera à la réparer. Et personne n'illustre mieux cela que le roi David. Nous allons donc examiner ce qui s'est passé avec le roi David en ce qui concerne l'étape numéro 2. Revenons donc au deuxième chapitre de Samuel, chapitre 12. Deuxième Samuel, chapitre 12, et nous allons commencer au premier verset. Bien sûr, c'est après ce qui s'est passé avec David et Bathsabée, et Uri le Hittite, et comment il a pris la femme d'Uri, puis a commis l'adultère avec elle et a ensuite fait tuer son mari. C'est pourquoi Dieu envoie Nathan à David. L'Éternel envoya Nathan à David, qui vint à lui et lui dit. C'est le premier verset. Il lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en surnombre, Mais le pauvre n'avait rien qu'une petite brebis qu'il avait élevée et fait grandir avec lui et avec ses enfants. Elle mangeait de sa viande, buvait à sa coupe, se reposait sur son sein, et était pour lui comme une fille. Un voyageur vint vers le riche. Celui-ci n'hésita pas à prendre dans son troupeau des brebis et des moutons pour les apprêter pour le voyageur qui venait à lui, mais il prit l'agneau du pauvre et l'apprêta pour l'homme qui venait à lui. La colère de David s'enflamma contre cet homme. Il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mourra. Et avant qu'il ne meure, il rendra à l'agneau le quadruple de ce qu'il a fait et de ce qu'il n'a pas eu pitié. » Puis, au verset suivant, Nathan dit à David, « Tu es l'homme qu'il faut. » Dieu commence donc à confronter David par l'intermédiaire de Nathan. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, « Je t'ai oint pour roi d'Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. » Sautez le verset 8, passez au verset 9. Pourquoi as-tu méprisé le commandement de l'Éternel pour faire ce qui est mal à ses yeux? Tu as tué par l'épée Uri, le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Et il poursuit en lui annonçant tout un tas de châtiments qui vont se produire à cause de ce qu'il a fait. Quelle a été la réponse de David? S'il y a un moment, et j'y réfléchissais, où l'on voudrait éviter d'avoir à gérer une erreur, ce serait quelque chose comme cela. Ce serait extrêmement douloureux. Ne pas savoir que vous avez fait cela, ne pas réaliser que vous avez fait cela, et puis quelqu'un vient vous voir et vous dit que c'est ce que vous avez fait. La prise de conscience qui vous vient à l'esprit vous ferait mal. Ce serait extrêmement douloureux. Mais David, tout ce qu'il a dit à Nathan au verset 13, c'est « J'ai péché contre le Seigneur ». Il ne s'est pas énervé. Il ne s'est pas mis en colère. Il ne s'est pas emporté contre Nathan. Il a dit « J'ai fait une bêtise ». Et parfois, c'est ce que nous devons faire, c'est la première chose que nous devons faire, il a dit « J'ai fait une erreur ». Mais il a continué, mais pas ici. Passons au chapitre 51 du psaume, car nous allons voir comment David a réagi à cette situation. Psaume chapitre 51. Il est dit que c'est le psaume de David lorsque le prophète Nathan est venu le trouver après qu'il se soit prostitué à Beth-Abé. Verset 1. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon tes bontés. Selon la multitude de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi de mes iniquités et purifie-moi de mon péché, car, première étape, je reconnais ma transgression et mon péché est toujours devant moi. Il a dit, c'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce mal à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles et que tu sois clair quand tu juges. Voici, je vais. Et je vais passer au verset numéro 7. Il est dit, purifie-moi avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, afin que les os que tu as brisés se réjouissent. Cache ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Le verset numéro 10 est le verset clé. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. David savait et comprenait que je devais changer. Je suis presque sûr qu'il s'est dit à un moment donné, je ne savais pas que j'étais capable de cela. Je veux dire que David allait très bien. Il s'en sortait très bien, et puis cet incident s'est produit, et il s'est probablement demandé ce qui s'était passé. Comment en suis-je arrivé là? Mais il a dit, crée en moi un cœur pur. J'ai besoin d'un cœur pur. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de penser différemment. Et lorsque nous commettons des erreurs, c'est justement ce que nous devons faire. Nous devons corriger l'erreur, car rien n'est réparé si nous ne corrigeons pas ce que nous avons fait. Maintenant, il est facile de dire, d'accord, j'ai compris. Vous dites qu'il faut corriger l'erreur. Et comme, vous savez, vous dites se repentir, et je comprends que cela signifie changer. Mais comment faire? Comment faire? Je pense que David nous a montré comment faire. Nous allons vers Dieu et nous lui demandons de nous aider. Qu'il nous aide à faire face à ce problème. Aidez-nous à faire face à nos erreurs. Aidez-nous à y faire face. Aidez-nous à comprendre que nous sommes humains et que nous faisons parfois des erreurs. Cela arrive, les êtres humains font des erreurs et ce n'est pas la fin du monde. Cela peut sembler être le cas sur le moment, surtout si nous sommes orgueilleux. Parce que, comme je l'ai dit, il est difficile de reconnaître que nous faisons des erreurs. Mais dans cette situation, David a crié à Dieu et lui a dit, « J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas faire cela tout seul. J'ai besoin que tu crées en moi un cœur pur, quelque chose de différent de ce qui vient de montrer cette tête hideuse et de ce qui m'a mis dans cette situation. » C'est la deuxième étape. L'étape numéro 2 consiste à changer de comportement. L'étape numéro 3 est une étape intéressante. Il s'agit d'apprendre des erreurs des autres et, surtout, de ne pas les répéter. Winston Churchill a dit, « Ceux qui ne tirent pas les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. » Et c'est vrai. Tournons-nous vers le chapitre 10 des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10. Je vais commencer au verset 5. Mais Dieu n'a pas été satisfait de plusieurs d'entre eux, car ils ont été renversés dans le désert. Or, ces choses nous servaient d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme ils l'ont fait eux-mêmes. Un exemple. Ne convoitez pas. Ne soyez pas idolâtres, comme l'étaient quelques-uns d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, « Le peuple s'asseyait pour manger et pour boire, et il se levait pour jouer. » Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme l'ont fait quelques-uns d'entre eux, qui sont tombés en un jour au nombre de 23 000. Ne tentons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont tenté et ont été détruits par les serpents. Ne vous plaignez pas non plus, comme quelques-uns d'entre eux se sont plaints, et ont été détruits par le destructeur. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du monde. Cela revient à dire que nous pouvons apprendre beaucoup de choses de l'exemple des gens dans la Bible. Dans ce cas précis, il s'agit d'Israël. Mais nous pouvons apprendre des erreurs de n'importe qui d'autre, de toutes les erreurs que nous savons que les gens ont commises. C'est intéressant, quand j'étais enfant, ma sœur était la plus gentille, et on la considérait comme la bonne enfant. Cela ne veut pas dire que j'étais une mauvaise enfant. Mais mon père disait toujours, « Tu sais, ta sœur s'est très bien débrouillée parce qu'elle avait ton frère et toi pour voir ce qu'il ne fallait pas faire, et c'était vrai. » Enfin, sauf dans un cas. Demandez-lui ce qu'elle en pense. Mais la plupart du temps, c'était le cas. C'était exactement le cas. Nous pouvons donc apprendre des erreurs d'autres personnes dans n'importe quelle situation, surtout dans les Écritures. Nous allons en voir un exemple dans la Genèse. Allez donc au chapitre 25 de la Genèse. Genèse 25 au verset, nous voulons commencer au verset 28. C'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü, d'Isaac et de Rebecca. Isaac et Rebecca ont donc donné naissance à des jumeaux, Jacob et Ésaü. Le verset 28 nous dit qu'il s'est produit dans la famille une petite situation qui n'était pas la meilleure. Ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Le verset 28 dit, « Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait de son gibier, et Rebecca aimait Jacob. » Ils avaient donc des enfants à lui et à elle, Ce qui n'est jamais une bonne chose ni une bonne situation que d'avoir des favoris comme cela. Et cela a causé de sérieux problèmes dans la maison. Allez maintenant au chapitre 27 et au verset 41. Rebecca, parce qu'elle tenait beaucoup à Jacob, voulait que Jacob ait tout et elle l'a encouragé à voler la bénédiction du droit d'aînesse à Ésaü. Au point qu'elle l'a fait s'habiller comme Ésaü, mettre de la laine et tout le reste pour qu'il se sente poilu. Et il l'a fait. Il a reçu la bénédiction. Il a fait exactement ce qu'elle l'a encouragé à faire, ce qu'elle aurait fait si elle avait eu des favoris. Ésaü arrive et dit, « J'aimerais avoir ma bénédiction. » Isaac lui dit, « Il n'y a pas de bénédiction. Je l'ai donnée à ton frère. Je ne sais pas quoi te dire. » Au verset 41, il est dit, « Ésaü haïssait Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. » Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours de deuil de mon père sont proches. Alors je tuerai mon frère Jacob. » Il est tellement bouleversé et en colère par ce qui s'est passé qu'il est prêt à tuer son frère. Rebecca l'apprend et, sous prétexte de « tu sais quoi ?»« Il faut qu'il se trouve une femme. Nous ne voulons pas qu'il trouve quelqu'un au pays de Canaan. Je vais l'envoyer chez mon frère pour qu'il soit en sécurité. » Et elle a dit à Jacob, « Reste là jusqu'à ce que ton frère ne soit plus en colère. Ne reviens pas. » Il répondit, « Je t'appellerai. Mais ne reviens pas. » Et il a dit, « D'accord. » Cela a duré entre 20 et 22 ans, quelque chose comme cela. Cette situation a empêché Jacob, Isaac et Rebecca d'avoir une relation avec leur fils pendant plus de 20 ans. Je veux dire que cela a causé beaucoup de dégâts. Maintenant, la question est de savoir si Jacob a appris de cette expérience. Parce qu'il l'a vécu. Il ne s'est pas contenté de regarder. Ce n'est pas lui qui a causé cela. Ce sont plutôt ses parents. Mais il était dans le coup, et il regardait ce qui se passait. Il savait qu'il était favorisé, et il savait que son frère était favorisé par son père. Il était conscient de ce qui se passait. Mais la question est de savoir s'il a appris quelque chose de cette situation. Avançons rapidement. Passons à la Genèse, chapitre 37. Jacob a ses propres enfants. Nous allons commencer au verset 2. Voici la descendance de Jacob. Genèse 37, 2. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Il était avec les fils de Bilha et avec les fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapporta à son père leur mauvaise réputation. Il est donc le favori, et c'est ce que dit le verset suivant, mais il est le favori. Il est donc capable d'aller voir son père et de lui dire, voilà ce qu'il faisait. Voilà ce qu'il faisait dans les champs. Je sais que nous aimons tout cela, n'est-ce pas? Vous avez des frères et sœurs. Regardez ce qu'il fait. Au verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit un manteau de plusieurs couleurs. Ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses frères, le haïrent et ne purent lui parler en paix. Nous commettons donc la même erreur. Le favoritisme a causé de graves problèmes dans la maison d'Isaac et de Rebecca, de Jacob et d'Ésaü. Et maintenant, cela se répète dans la maison de Jacob avec sa femme et ses enfants parce qu'il favorise Joseph. Et du coup, les autres enfants le détestent à cause de cela. Ils ne pouvaient donc pas le voir. Par conséquent, nous savons ce qui s'est passé. Ils allaient le tuer, mais ils ont décidé de le vendre comme esclave. Et il est parti en Égypte. Mais Jacob a-t-il appris quelque chose de cette expérience? Il ne savait pas que ses enfants, à ce moment-là, ne savait pas que ses enfants avaient causé la situation de Joseph. Il ne le savait pas. Mais c'est presque comme s'il n'était pas encore conscient de la façon dont il traitait ses enfants. Allez au chapitre 42 de la Genèse, sur quelques pages. Verset 36. Les enfants sont allés en Égypte parce qu'ils avaient besoin de nourriture, parce qu'il y avait une famine. Bien sûr, ils ont rencontré Joseph et il leur a dit, « Vous ne pourrez revenir que si vous amenez votre frère, car je pense que vous êtes des espions, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ils sont donc allés voir Jacob pour le lui faire savoir, et Jacob, leur père, leur a dit, « C'est moi que vous avez privé de mes enfants. » Voilà une déclaration intéressante si l'on considère que vous croyez que votre fils, Joseph, a été tué et mis en pièces par des animaux sauvages. En quoi avons-nous donc quelque chose à voir avec cela? Joseph n'est pas là, Siméon n'est pas là, parce qu'il a dû rester en Égypte, et vous emmènerez Benjamin, et toutes ces choses sont contre moi. Rouben prit la parole et dit, « Tu es mes deux enfants si je ne les ramène pas » et il dit, « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. Je suis ton fils et nous sommes son frère. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il lui arrive malheur par le chemin que vous devez suivre, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec tristesse dans la tombe. Donc s'il lui arrive quelque chose, je vais mourir. C'est comme cela, oh là là. » Finalement, nous savons comment l'histoire se termine, mais Jacob n'a jamais. Il n'a pas appris, dans ce cas, la leçon qu'il a tirée de l'expérience de ses parents et de la façon dont la situation s'est déroulée. Il n'a pas appris. Il y a donc des situations où nous pouvons apprendre de l'exemple des autres. Nous pouvons voir d'autres personnes faire des erreurs et nous pouvons apprendre à ne pas faire ces mêmes erreurs. Dans certaines situations, les parents disent à leurs enfants des choses qu'ils ne voudraient normalement pas leur dire, mais ils le font dans l'espoir qu'ils apprendront des erreurs qu'ils ont commises et qu'ils ne les commettront pas à leur tour. C'est vrai. Vous savez, j'avais beaucoup d'argent et j'ai gaspillé $1000 pour cela, et cela n'a pas marché, et c'était horrible. Vous voulez gérer votre argent, vous voulez faire ceci. Vous leur dites des choses et vous espérez qu'ils apprendront de votre exemple ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, ce que nous avons fait pendant tout ce temps, c'est apprendre des exemples d'autres personnes dans la Bible. Maintenant, en conclusion, je vais juste conclure, mais Dieu nous encourage à surmonter nos erreurs. Il nous encourage à reconnaître nos erreurs, à les corriger en nous repentant et en changeant, à ne pas répéter les erreurs des autres ou à apprendre des erreurs des autres afin que nous puissions apprendre et grandir à partir de ces mêmes expériences.